France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons des nourritures cette semaine, de tout ce qu'elles inspirent à la philosophie. Ce matin, l'imagination au menu. Pas de cuisine sans imagination. Par-delà les recettes, les règles nécessaires, notamment en pâtisserie, où il est impossible de trop jouer avec les températures et les temps de cuisson, si l'on veut qu'une construction en sucre ou en chocolat tienne. Par-delà tous ces impératifs, y compris d'ordre chimique, la cuisine exige qu'on invente. Sinon, le cuisinier se fatigue, anticipant la lassitude des convives. Tout le monde veut être surpris encore et encore, tout en désirant reconnaître quelque chose de familier. Couleur, agencement, forme, la nourriture, lorsqu'elle est magnifiée, est sommée de devenir un peu une œuvre d'art. La France ne serait pas cette grande terre gastronomique uniment saluée si elle n'avait eu aussi le sens du grandiose dans la présentation des plats. Qu'on pense aux pièces montées de Marie-Antoine Carême au début du 19e siècle, dans lesquelles tout n'était d'ailleurs pas comestible. Ou encore au début du 18e siècle, à la manière dont Vincent Lachapelle a exalté la pâte feuilletée en inventant ces formes singulières que sont les puits d'amour, créés pour la Pompadour, suivis un peu plus tard par les bouchée à la reine, demandée par sa rivale, l'épouse officielle de Louis XV. L'imagination embarque la nourriture, au point de l'utiliser parfois pour évoquer tout autre chose qu'elle. Une de nos invitées de ce matin nous racontera combien la table compte dans la série de films Le Parrain de Coppola, car ce que deviennent les pâtes italiennes dans l'Amérique contemporaine résume beaucoup de choses. Bienvenue dans cet épisode sur la nourriture et l'imaginaire. Bonjour Claire Dixot.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous.
C'est vous que j'évoquais à l'instant. Vous êtes scénariste et vous revendiquez des intérêts, je vous cite, cinématico-gastronomiques. Aux éditions Agnès Viennot, vous avez publié À table avec la mafia, 90 recettes italo-américaines, et aussi À table avec Charlie Chaplin, 60 recettes vagabondes. Vous nous en parlerez. Bonjour Kilian Stangel.
Bonjour.
Vous venez du milieu de la restauration, formé au métier de maître d'hôtel et de sommelier. Aujourd'hui, vous enseignez des matières, y compris théoriques, à l'université de Tours. On vous doit plusieurs livres, Cuisine fantastique et alimentation de fiction, Petite philosophie de la gastronomie et Philosophie et alimentation. Les références précises sont données sur notre site, notamment le nom des éditeurs. Et enfin, bonjour Jean-Baptiste André.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée du Grésivaudan à Mélan, près de Grenoble.
Tout à fait.
Et vous adorez la cuisine gastronomique. Vous êtes formé, vous aussi, à la restauration, dès avant votre baccalauréat, avant d'aller étudier la philosophie à l'université Grenoble-Alpes. Vous nous parlerez de votre livre « Penser l'art de la cuisine, le discours philosophique et le discours gastronomique entre histoire, esthétique et politique ».
En cuisine, en musique, en sculpture, en peinture. Tout est là, quoi. C'est où on aime le geste, où on aime la main, où on l'aime pas. Quoi. Moi, j'adore. C'est peut-être le sens que je préfère. Peut-être même avant le goût. Et cette main, si on veut qu'elle soit de plus en plus belle, c'est du travail, c'est 7h, 8h. 10 heures de fourneau par jour pour que justement elle devienne de plus en plus précise, de plus en plus juste, de plus en plus élégante. C'est ça le truc. Dans ma vie de cuisinier, ça, ce sont très souvent des lassitudes. De ne plus vouloir faire comme avant ou comme d'habitude. Je ne pouvais plus. Je dirais faire une tarte aux pommes d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire en prenant des pommes et en les coupant en tranches et en quartiers. On doit obligatoirement trouver autre chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de ruban en forme de rose qui est posé comme ça à l'intérieur de la tarte. Puis il y a un côté design, il y a un côté nouveauté. Je ne suis jamais plus heureux que quand je mets le doigt. Quand je mets la main sur un geste nouveau, sur une saveur nouvelle, ça qui est merveilleux. Si vous fonctionnez avec cette essence sublime de la vie.
Vous venez d'entendre Alain Passard, propriétaire du restaurant parisien 3 étoiles L'Arpège. Il était interrogé dans la série Chef's Table, créée par David Gelb et diffusée sur Netflix en 2016. Kilian Stengel, c'est difficile pour un chef d'inventer tout le temps.
La créativité pour un chef, elle est à la fois théorique et pratique, dans le sens où il y a une première théorie qui est celle qui lui a été enseignée par des savoir-faire, des bases techniques. Et puis, par la suite, il y a tout ce qu'on appelle le praxis énonciatif, c'est-à-dire cette situation en premier lieu où il est avec un crayon, une feuille, quelques produits devant lui et il doit être créatif.
Le praxis.
Oui, on va analyser.
La praxis. Les philosophes disent souvent j'ignorais qu'en cuisine, on avait repris ces concepts philosophiques.
Oui, on le reprend simplement pour essayer d'analyser la temporalité de la créativité. Dans un premier lieu, on essaye de se positionner sur une feuille avec quelques produits devant nous. De cela, on va faire ressortir une recette et puis surtout une terminologie qui va énoncer cette recette. Et dans le deuxième temps, c'est le moment où on produit, où ce chef se retrouve non pas sous les feux de la rampe, mais sous les feux de sa scène qui est le lieu culinaire, et avec les aléas techniques de main-d'œuvre, d'achalandage de produits, de température de la pièce, tutti quanti, on se retrouve avec un aléa qui va nous amener sur une deuxième représentation de cette qualité créative. Et puis, on n'oublie pas qu'il a créé cette recette avec un terme, un intitulé. Et cet intitulé, il le met sur son menu, et le public...
La tarte aux pommes, vous voulez dire ?
Non, un intitulé plus créatif, quelquefois.
Oui, oui, justement. Plutôt que de reprendre une base. Il y a un nom spécial d'Alain Passard pour la tarte aux pommes.
Je n'en ai aucune idée concernant Alain Passard.
Il y a un ruban
spécial
à l'intérieur de la pâte.
C'est le bouquet de roses.
Le bouquet de roses, voilà.
Bien.
Donc, pardon, nous vous avons interrompu.
Et puis, on se retrouve avec le consommateur qui, lui, devant l'ensemble des terminologies présentes dans le menu, doit arriver en quelques secondes à créer un paradigme qui est complet, qui est la prise de plaisir. Et pour cela, eh bien, il va choisir ce bouquet de roses parmi d'autres éléments à effleurer sur le menu. Et dans la situation dernière temporalité, le consommateur doit, à travers les aléas du service, de la température, de la colorimétrie de la pièce, des accords mets et vins, continuer d'arriver à se structurer une représentation qualitative. Et ce qui est finalement une observation limitée de la part de M. Passard, c'est de voir que c'est sa créativité qu'il estime arriver à une limite. Or, ce qu'il oublie, c'est que la créativité ne peut exister que s'il y a acceptation du consommateur de sa propre créativité. Et la créativité d'un chef, elle part d'une base de savoir-faire normalisé qu'on appelle les bases escoffières, et il doit arriver à faire quelque chose qui prend une tendance ou une forme de vie dans l'époque et dans laquelle on est, mais surtout qui doit arriver à être adopté, accepté par les consommateurs. Et c'est là où s'arrête la créativité. C'est l'acceptation. On pourrait avoir des chefs cuisiniers qui inventent des choses très très originales, mais qui n'arriveraient pas à commercialiser.
Escoffière, c'est un adjectif construit à partir du nom d'Auguste Escoffier, chef extrêmement important, mort en 1935, auteur d'un fameux guide culinaire en 1901 qui fait presque 1000 pages, et c'est considéré, si j'ai bien compris, Jean-Baptiste André, comme le début de la grande cuisine contemporaine, ce qui m'étonne aussi un petit peu, parce que j'avais comme ça naïvement l'impression que quand même beaucoup de choses nous venaient d'avant, de la cour de Louis XIV en France, de la cour de Louis XV, mais Escoffier, c'est majeur, n'est-ce pas ?
Escoffier, c'est majeur parce que c'est l'un des premiers cuisiniers qui va codifier la cuisine. Comme mon collègue le disait, on assiste avec le guide culinaire à une codification des bases de la cuisine. Donc les bases en termes de fond, en termes d'ordre-d'œuvre, en termes de constitution du menu. Et il me semble, pour pas dire de bêtises, que Escoffier participe aussi énormément de la construction de la brigade.
Absolument, la cuisine en silo.
Brigade.
Voilà.
La brigade. Bien que Taïwan avait déjà mis en place.
Bien que Taïwan avait mis en place déjà auparavant, mais Escoffier, c'est vrai qu'on le garde pour ça. Pas forcément que pour ses publicités pour Cubor, parce qu'il a été aussi réutilisé dans les publicités pour les bouillons, etc. Mais en réalité, voilà, il a le guide culinaire qui est un ouvrage imposant, a été de toute manière battu, rebattu au cours du XXe siècle, puisque là on le situe au début du XXe siècle, et la cuisine a cessé d'évoluer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la cuisine française notamment, on a vécu à chaque fois, c'est marrant, des nouvelles cuisines, des nouvelles cuisines. D'ailleurs, il y a certains auteurs culinaires qui rigolent, qui se moquent de ce terme qui consiste à dire, en fait, mais la cuisine française est toujours renouvelée, mais à quand va-t-elle finalement s'arrêter? Puisqu'on a en effet une cuisine française codifiée depuis déjà quelques siècles, mais en réalité, on assiste aujourd'hui à une vraie cuisine contemporaine qui ne cesse de nous étonner et qui touche à la performativité, à la porosité avec l'art. On le voit, et c'est ce qui nous fait dire, je crois, qu'on est dans une, oui, on est face à une cuisine contemporaine, comme on pourrait être face à l'art contemporain.
Et la dimension visuelle est très importante, peut-être pour ne pas trop trafiquer les goûts dans les inventions. On a des envies de goût quand même limitées, vous l'avez dit, on y reviendra. Même si on peut établir des choses curieuses, neuves en matière de goût. Mais c'est vrai que le visuel permet d'inventer encore et encore, par exemple la tarte aux pommes, avec un bouquet de roses, dit Alain Passard, et fait Alain Passard, sans que ça change fondamentalement le goût qui est celui d'une tarte aux pommes, et peut-être qu'il faut dire heureusement. Alors Claire Tixot, je suis très curieuse de votre parcours. Cinéma et gastronomie, c'est un mariage qui scande, enfin, ça, c'est vraiment votre vie. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire?
Alors, c'est une partie un peu récente de ma vie. J'ai commencé par des lettres et j'ai fait de la télévision puis de l'internet pendant un long moment. Mais depuis que j'ai 13 ans, je suis amoureuse de James Bond.
Ah!
Pas forcément le héros des films, le héros des livres. Et je me permets d'encourager vos lecteurs, s'ils aiment le polar, plus que l'espionnage même, à ouvrir un bouquin de James Bond.
De Fleming, en fait.
De Ian Fleming, oui. Qui est un des deux auteurs de polar à inventer le polar gastronomique. Les James Bond sont des polars gastronomiques. Fleming était un fou de cuisine. Dès son adolescence et dès ses années de fac, il crée un club culinaire. Il paraît qu'on y mangeait très mal. Mais il y écrit des pages qui vous mettent l'eau à la bouche et qui ont cet impact sur le lecteur des années 50 et 60 qui sort de la guerre, qui est encore avec les tickets de rationnement, qui n'a pas vu une banane depuis fort longtemps. Ces pages ont un impact de faire découvrir l'exotisme, les pays étrangers, à travers la cuisine qu'on y mange. Mon coup de foudre, c'était à 13 ans pour James Bond, et je m'en suis toujours pas remise. Ça a été le premier livre que j'ai pu écrire sur la cuisine au cinéma.
On donne un exemple, dans les films, c'est vous qui nous l'avez signalé pendant qu'on préparait cette émission, dans C'est Bon Baiser de Russie, c'est ça?
Oui, dans le livre.
Dans le livre. Baiser,
hein. Dans le livre.
Vous me direz si c'est restitué dans le film, je me souviens pas du tout.
Ça n'y est pas, malheureusement.
Donc à un moment, il y a un petit déjeuner. Et c'est un petit déjeuner. Alors, ce qui est étonnant, peut-être vous allez me corriger, c'est plutôt la grande cuisine turque, dont il faut rappeler que c'est une des plus grandes cuisines du monde, plutôt que la cuisine russe qui est célébrée dans ce petit déjeuner.
Nous sommes en Turquie, une grande partie de Bon Baiser de Russie, c'est pour tromper l'ennemi sans doute, se passe à Istanbul. Bond vient d'arriver à Istanbul, il commence sa mission, il a rencontré son contact la veille, il a choisi un hôtel dans lequel il a très mal dormi, dévoré par les puces, mais le lendemain matin, il écarte les rideaux et il est sur le croisement entre le Bosphore et la Corne d'Or et il contemple l'une des plus belles vues du monde, c'est lui-même qui le dit. Il commande avec un peu d'appréhension un petit déjeuner qui ne ressemble pas au petit déjeuner traditionnel turc, des tomates, des concombres, des poivrons, des œufs durs. Il commande du yaourt et des figues vertes avec du miel. Je peux vous dire que la première fois que j'ai mis le pied à Istanbul, il ne m'a pas fallu une heure pour trouver des figues vertes avec du miel. C'est à la fois tellement visuel et tellement sensuel. Et Bond est ravi de son petit déjeuner. Ça n'est pas traduit dans le film. Vous me posiez la question, c'est très difficile de faire de la nourriture dans les films d'action. Parce qu'on mange assis, en général, et on mange immobile. C'est un moment où l'action s'arrête pour que les personnages parlent. Ça n'est pas, en général, ce que cherche à faire un film d'action. On mange dans les films de James Bond, mais on boit surtout. On boit énormément.
Oui.
C'est plus la boisson qui va déterminer le personnage, caractériser, comme on dit en scénario, le personnage. Dans les films de Bond, on mange beaucoup moins et c'est moins intéressant.
Mais vous aimez le cinéma où on mange. On parlera tout à l'heure de Francis Ford Coppola.
Avec plaisir.
Alors, je vous propose de réfléchir un moment maintenant dans cette émission à ce que c'est que une culture culinaire. L'aspect artistique qui, sans doute, joue sur plusieurs sens, et j'ai évoqué déjà le visuel, en plus du bon, du délicieux sur le plan gustatif. Alors, nous avons trouvé un très intéressant extrait du documentaire de LSD sur France Culture qui a été diffusé pendant les fêtes de Noël et Nouvel An le 31 décembre 2024. C'est un épisode qui s'intitule La fabrique du goût, et des enfants sont interrogés sur ce qu'ils considèrent comme le goût français. Écoutez.
Bah, pour moi, le goût de la France, c'est les escargots, un peu. J'en ai jamais goûté.
Pour moi, le goût de la France, c'est la ratatouille et le fromage, puisqu'on en a beaucoup en France.
Moi, le goût de la France, c'est le goût des knackis.
Moi, je trouve que c'est la baguette, puisque on peut la manger quand on veut. C'est plutôt la richesse, plutôt, par exemple, les croissants.
Et moi, je trouve que la couleur, ça pourrait être le jaune aussi, parce que c'est un peu soleil.
Bah, moi, je dirais ce qui représente la France. Bah, moi, je dirais la viande de porc, parce que presque tout le monde en mange. Et c'est très rare qu'on voit en France qu'on mange, par exemple, du mouton.
Moi, c'est un peu deux couleurs, le bleu et le blanc. Le bleu, c'est parce que je vais souvent à la mer. Et c'est le goût de l'eau salée. Et le blanc, c'est la crème de camembert.
Tout le monde a souri. J'ai l'impression que ce seul extrait pourrait nous faire faire une seule émission. Il y a tellement à dire. Je vous écoute, Kylian Stangel.
Ah, les enfants ont toujours un franc-parler qui est assez agréable. L'avantage, c'est qu'ils partent d'une feuille blanche aussi, comme j'évoquais la feuille blanche tout à l'heure, alors que nous, ce qui nous construit aujourd'hui notre imaginaire de la qualité ou du plaisir gastronomique, c'est non seulement l'éducation qu'on a pu avoir, c'est les voyages, les rencontres, les découvertes, tous ces éléments-là, ils en sont encore pas totalement rassasiés, les enfants, c'est l'avantage qu'ils ont. Donc eux, ils partent d'une lecture qui est leur quotidien, l'espace de médiation qu'est la table, et ce que peuvent leur apporter leurs parents. Quand elle a évoqué le blanche, attendez, entendre parler du lait, compte tenu que le lait, finalement, est encore un élément de frais.
C'est assez fort pour les goûts d'enfants. Mais...
Tout à fait, c'est ça qui est assez sympathique, c'est de voir que des éléments presque violents pour leur âge gustativement sont pris comme des éléments symboliques à leurs yeux, tels que des fromages ou des produits déjà avec une certaine signification gustative. Et puis, ils présentent ça presque comme une lecture patrimoniale. La baguette que l'on a fait inscrire au patrimoine de l'humanité sur la liste de l'UNESCO il y a maintenant 3 ans de cela, on voit qu'elle est largement signifiée. Alors que la baguette n'est plus l'élément principalement vendu dans les boulangeries. On n'a pas entendu parler du repas gastronomique des Français inscrit au patrimoine de l'humanité, mais c'est normal, c'est un concept et les concepts ne sont pas encore totalement adaptés.
Alors je vous écoute, vous aussi, Jean-Baptiste André. Je ne vous cache pas qu'à propos de patrimoine, j'ai été saisie quand l'un de ses enfants parle des escargots sans avoir jamais goûté des escargots. Ça veut dire aussi, qu'une culture culinaire, c'est au-delà de ce qu'on connaît intimement. On sait que les escargots sont français, et peut-être même que cet enfant trouverait ça dégoûtant au début, mais c'est la France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai que... Alors, on dit tout le temps, c'est marrant, hein, parce que j'adore les escargots. Et tout le temps, on est toujours en train de me dire... oui, mais ce qui est bon dans les escargots, c'est le beurre persillé.
Ouais, parce que les escargots, tout le bureau chez nous, avec Philosophie, a commenté en ce sens.
Je suis toujours en train de préciser si l'escargot, ça a vraiment une saveur particulière. Ça a une saveur à part entière, indépendamment du condiment qu'on peut y mettre. Ce qui m'a vraiment frappé dans cet extrait.
Qu'est-ce que vous dites franchement sur l'escargot ? En fait, non, l'escargot a du goût.
A un goût à part entière.
Et vraiment, la sauce, c'est bien, mais en soi, ça ne donne pas.
Ça relève le goût de l'escargot, mais en fait, il y a des recettes où on retrouve l'escargot avec les crevisses, avec d'autres poissons d'eau douce qui viennent justement accompagner ce goût d'escargot qui est un gastéropode qui n'a ni le goût d'un poisson, ni le goût d'un... C'est un goût très particulier, hein. Un peu herbacé, un peu sauvage, mais très fin.
Donc ce n'est pas que la sauce qui
C'est pas que la sauce. Non, je persiste et je signe. Ce n'est pas que la sauce qui donne le goût à l'escargot. Et c'est une grande fierté de pouvoir le dire aujourd'hui. Ce qui m'a marqué dans cet extrait, c'est que les enfants parlent quand même beaucoup de plats réconfortants. Et quand on est et qu'on grandit français avec cette culture gastronomique ou cette culture de notre famille, les plats que les enfants ont mentionnés, le croissant, la ratatouille, les fromages, c'est vrai que c'est souvent des, enfin pour ma part, hein, des aliments qui nous rappellent à notre enfance.
Qu'est-ce que vous appelez des plats réconfortants?
Ben l'odeur, vous voyez, l'odeur des croissants chauds. Hein, il y a cette fameuse mythe autour du fait que l'odeur du pain qui sort du four, c'est une odeur réconfortante. Alors pour pas vous dire, j'ai grandi à côté d'une boulangerie. Dans un petit village en Isère qui s'appelle Saint-Quentin-sur-Isère, et le matin, quand on se levait, le boulanger faisait cuire les fournées de pain, et on avait toujours cette odeur en partant à l'école du pain et de la viennoiserie, et ça rappelle. Alors aujourd'hui, j'habite plus tout à côté d'une boulangerie, j'ai plus cette expérience olfactive, mais ça me rappelle un temps de la naïveté, un temps, on va dire. Révolu, mais réconfortant au sens où ça nous enrobe, ça nous réconforte, on se sent protégé. Il y a des aliments comme ça qui sont des aliments réconfort, des aliments refuge. Voilà.
Claire Dixo.
Une grande partie de l'effet que produit la nourriture sur nous, c'est le souvenir. La nourriture, c'est la mémoire. Et si les auditeurs ont vu Ratatouille, l'une des
le
grandes
film
scènes de
Ratatouille. C'est Walt Disney ou c'est l'autre?
C'est Pixar.
C'est Pixar, pardon.
Qui est maintenant Walt Disney. La grande scène presque finale, le climax, comme on dit, le sommet du dernier acte de Ratatouille, c'est quand le méchant critique gastronomique qui est venu pour casser le restaurant de nos gentils héros goûte une part de ce qu'il appelle une ratatouille qui est un petit peu autre chose, mais c'est pas grave. Et la scène fait un flashback sur l'enfance de ce critique gastronomique quand sa mère, j'en ai encore des frissons, lui préparait une ratatouille. La nourriture réconfortante, et il y a des mots pour ça dans plein de langues, en tout cas européennes, comfort food, c'est la nourriture qui nous renvoie en enfance et qui nous renvoie à des goûts qui sont pour nous des goûts simples, mais qui vont être très différents si vous avez grandi à Hong Kong ou à Londres. Mais le cinéma n'a, à mon avis, jamais aussi bien montré ça que dans Ratatouille et dans cette scène où je crois tout le monde a pu reconnaître et se dire « Ah oui, quand j'étais petit, ma mère me préparait » et vous pouvez, chacun d'entre nous, peut compléter la phrase.
Kylian Stangel. Oui, Stangel.
C'est pas sûr. On ne peut pas avoir une vérité absolue, finalement, de ce plaisir qui nous renvoie naturellement vers Proust. Le plaisir de l'enfance, il n'est qu'une phase des plaisirs que l'on peut prendre. Si on prend une des théories parmi plein d'autres, celle de l'analyse transactionnelle, nous montre bien qu'il y a des phases où on a cette réminiscence de la boulangerie au bas de notre rue qui nous renvoie vers ce plaisir d'enfance. Et puis, de temps en temps, le plaisir, on le construit à travers un besoin de sécurité où c'est parce qu'on sait que cette boulangerie-là, contrairement à la boulangerie voisine, a une propreté, une hygiène des locaux qui me met en sécurité, donc c'est là que je vais prendre du plaisir. Et puis la troisième situation, c'est celle où on se sent adulte responsable et on sait que pour des raisons écologiques, climatiques, économiques, etc., sociales, on doit sélectionner ce type de produit parce qu'il a une vertu qui nous offre une autre représentation du plaisir.
Je vais dans le sens de mes deux collègues.
Intérêt.
Non, mais parce que tout de suite, en faisant mention de Proust, on a cet épisode qu'on appelle chez Proust la réminiscence affective. C'est la madeleine, qui est en fait pas tout à fait une madeleine. Hein, dans la recherche, c'est un petit bout de biscuit à la cuillère que la tante Léonie trempe dans un peu de thé pour faire amollir le biscuit et que Proust raconte hein, dans cette expérience qui le renvoie à ce moment avec la grand-mère. Il y a plein d'épisodes en fait dans la recherche où Proust justement est face à cette mémoire, comme le disait Claire, qui est une mémoire involontaire. Et c'est ça qui est très intéressant chez Proust. L'intérêt de la mémoire du goût, c'est qu'elle nous surprend. Et il y a une forme d'authenticité de la mémoire quand elle n'est pas voulue. Et c'est ça qui est très intéressant dans la recherche du temps perdu chez Proust. Cette recherche finalement du temps qu'on doit retrouver. C'est pour ça qu'il y a le temps perdu et le temps retrouvé, qui consiste en réalité à devoir retrouver cette mémoire involontaire avec ses souvenirs véritables. Il y aurait une forme de vérité dans la mémoire qui, justement, ne nous est pas utile. C'est-à-dire se souvenir de son code de carte bleue, savoir où est-ce qu'on habite, son adresse, qui ne sont pas vraiment l'authenticité de la mémoire que finalement on devrait avoir chez Proust. Et du coup, forcément, on pense à l'épisode de la Madeleine.
Puis il y a les mots aussi, vous ne trouvez pas que la nourriture... Déjà, ratatouille, j'ai pas cherché d'où ça venait, mais c'est savoureux. Et alors là, je crois qu'on voit pas mal de choses à un grand cuisinier du XVIIe siècle. Il est mort en 1672, c'est François-Pierre de la Varenne, qui, paraît-il, nous a fait sortir des épices à tout va du Moyen-Âge. Il disait « Quand je mange une soupe aux choux, je veux qu'elle ait goût de choux ». Mais dans Le cuisinier français de 1651, ils mettent aussi tout un tas de recettes avec des mots, des expressions extraordinaires. Le bœuf à la mode, les œufs à la neige, la bisque, le bouquet garni qu'on met dans certaines viandes, certaines cuissons. Les mots, c'est très très important. Donc, vous ne croyez pas, Claire Dixo, que ça compte dans l'imaginaire et nous avons besoin d'une carte. On parlait tout à l'heure du bouquet de roses d'Alain Passard. Nous avons besoin de cette poésie avant de goûter.
Quand j'ai commencé à écrire sur la cuisine, la première chose que je me suis dit, c'est non pas de quoi je vais parler, mais est-ce que je peux développer un langage, un vocabulaire et une grammaire qui donne faim à mon lecteur et qui lui donne envie de manger exactement ce que je décris. Ça, c'était mon point de départ et ça m'a pris 6 mois avant même de commencer à écrire. Et vous posez la question des chefs et de la carte des chefs, on écoutait Alain Passard tout à l'heure, il y a vraiment deux écoles. Il y a le plus complexe pour faire rêver, le bouquet de roses, on ne sait pas forcément si on va manger une tarte à la rose. Et puis, dans les années 80, on a l'inverse, on a des chefs qui ont cherché à au contraire simplifier et expliciter leurs cartes. Alain Ducasse a été en tête de ce combat. Quand je fais des coquillettes à la truffe et au jambon, sur la carte, il y a marqué coquillettes à la truffe et au jambon. Parce que coquillettes à la truffe et au jambon, on revient à ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, ça vous renvoie aux coquillettes de votre maman. Sauf qu'il y met de la truffe. Et que c'est quand même très bon.
Mais même chez la maman, ça peut être très bon.
Et comment ? Oui. Je vous le confirme tout à fait. Le mot est une passerelle phénoménale vers la création de l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas meilleure sensation que celle que vous provoquez dans la tête de votre lecteur ou de votre spectateur. C'est beaucoup plus efficace que de lui lire une recette de cuisine qui ne va jamais procurer des sensations gustatives. La description, en revanche, va donner envie, faire saliver, faire imaginer.
Alors il y a aussi, j'étais surprise en travaillant, en amont, en préparant cette émission, de voir que beaucoup de grands chefs génèrent une mythologie autour d'eux. Puisqu'on parle d'imaginaire, c'est assez important. Donc François Vatel, on est au XVIIe siècle, il a travaillé pour le prince de Condé au château de Chantilly, et en 1671, il a organisé un énorme dîner où il a reçu Louis XIV et toute la cour, 3000 personnes, 3 jours de festivités. Et le dernier soir, les poissons ne sont pas arrivés, la commande n'est pas arrivée et il s'est suicidé. Il s'est suicidé, Vatel, parce que les poissons n'arrivaient pas. Et je crois que la petite histoire raconte qu'ils sont arrivés plus tard. Il s'est d'abord mis une lance dans le ventre. C'est quand même si... Alors, je donne un autre exemple. Carême, donc que vous citez souvent l'un et l'autre, Marie-Antoine Carême, il paraît que son père, à 8 ans, l'a abandonné aux portes de Paris pour qu'il se débrouille tout seul et qu'il réussisse sa vie parce qu'il le pensait très habile. Alors d'autres lectures disent que c'est pas vrai, c'est lui qui l'a placé chez un cuisinier. Mais ce qui est intéressant, c'est la mythologie. C'est important, vous pensez, y compris dans le rapport à tout ce que ces chefs sont capables de nous préparer, Kilian Stangel.
Alors l'histoire, la partie historique qui mériterait toujours d'être lue, et il y a nombreux aujourd'hui historiens qui font très bien leur travail sur la recherche de la vérité de l'ensemble de ces biographies ou de l'histoire des recettes aussi, quelquefois, qui sont tronquées, imaginées pour beaucoup par l'avènement des confréries à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui ont beaucoup participé à structurer des imaginaires historiques de ces différentes recettes. Ce qui est assez intéressant de profiter de ces imaginaires, c'est de s'apercevoir qu'ils profitent aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, des terminologies qui construisent ces imaginaires. On a parlé d'Escoffier tout à l'heure, qui a participé à une relecture des différents termes, des différentes recettes et de leur storytelling qui avait été créé. Faut voir que le storytelling est un élément marketing qu'on utilise encore énormément sur notre territoire, qui profite d'une largesse d'esprit, de l'authenticité de la recette, de la tradition de la recette. Quand on parle d'une recette traditionnelle, on peut tous s'interroger autour de la table depuis combien d'années finalement cette recette mérite d'être considérée comme traditionnelle pour avoir une profondeur d'existence. Et la terminologie renforce, remet un clou supplémentaire sur cette volonté de créer un imaginaire, compte tenu que si on fait une analogie avec le vin, avec l'empélographie, qui est une discipline qui a complètement disparu, elle était là justement pour répondre à la problématique de l'imaginaire et à la diversité des terminologies et de l'origine de ces terminologies. Pour un même cépage, on pouvait trouver 25 termes avec 25 légendes qui racontaient l'origine de cépage. Le métier d'empélographe aujourd'hui a littéralement disparu, mais on n'a pas cette vertu professionnelle dans le domaine de la cuisine. On laisse finalement la cuisine évoluer, parce que c'est une matière évoluante, et on laisse finalement les recettes s'éparpiller avec des terminologies qui donnent, d'une manière unique, qui donnent naissance à plein de recettes. On peut penser à la tarte tatin, tourangeau que je suis, je dois quand même évoquer la tarte tatin plus que la recette de Monsieur Passard. Et cette tarte tatin, aujourd'hui, c'est un terme qui donne naissance non pas à des produits avec de la pomme, mais avec beaucoup de produits de matières premières différentes. Et on peut penser aussi à des recettes qui petit à petit ont évolué, telles que la bouillabaisse, ou quand j'étais prof à Marseille, que je demandais aux jeunes étudiants à base de quoi est la bouillabaisse, naturellement on m'expliquait qu'elle était à base de poisson.
Hein, de roche.
De roche, naturellement. Et qu'en réalité, la profondeur historique fait qu'on nous racontera que la recette de la bouillabaisse est faite à base de différents produits. Je dis bouillabaisse, excusez-moi, je confondais avec la choucroute. La choucroute à Marseille, quand on leur demande aux étudiants, pour eux, excusez-moi, j'étais en train de... Mon imaginaire allait trop loin. La choucroute à Marseille, pour eux, est faite à base de poisson, alors que pour nous, elle est faite à base de porc, et que dans la profondeur historique, elle est faite à base de quenelle de veau, parce que c'était une recette juive. Et on voit qu'il y a... une légende qui se crée autour d'un produit, qui amène une vérité absolue telle que cette fameuse choucroute, et qui, quand on évolue d'un territoire à un autre, il y a une autre vérité qui se dessine.
Je suis en compagnie de Claire Dixot, de Jean-Baptiste André, de Kilian Stangel, qui tous les trois ont une extraordinaire connaissance de l'histoire, la gastronomie, et ont beaucoup de concepts pour appréhender l'imaginaire que suscitent en nous les nourritures. C'est le troisième épisode de notre série sur les nourritures cette semaine. Alors, nous allons continuer à commenter les mots qui décrivent ce que nous mangeons, les noms de plats, mais aussi les couleurs, et puis les recherches de nouveaux goûts. Je voudrais que, pour introduire ce moment-là, nous entendions un texte très classique qui est de Platon dans le Gorgias, texte écrit au tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Platon n'a pas beaucoup d'admiration, ni même d'estime pour la cuisine. Écoutons-le.
J'ai dit en substance que la cuisine, à mon avis, n'est pas un art, mais un savoir-faire. Que la médecine, en revanche, examine la nature du patient qu'elle doit soigner, qu'elle étudie les causes qui justifient ce qu'elle fait et peut rendre raison de chacun de ses gestes, voilà ce que fait la médecine. Quant à l'autre pratique, celle qui procure du plaisir, elle consacre au plaisir la totalité de ses soins. C'est toujours vers le plaisir qu'elle se dirige, sans le moindre recours à l'art. Mais de ce plaisir, elle n'examine ni la nature, ni la cause. Et sans rien calculer, sans articuler la moindre de ses démarches, elle procède par routine et par savoir-faire. Comme cela, elle finit par conserver le souvenir de ce qui se passe habituellement, et elle arrive à procurer des plaisirs.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Je vous laisse commenter, vous connaissez bien ce texte, Jean-Baptiste André. Le problème est-il que, pour Platon, tout ce qui concerne le corps, et au fond la médecine est aussi concernée, c'est pas ce qu'il préfère, quoi. Il pense qu'on est dans un artisanat avec plus de savoir technique pour la médecine, qui l'intéresse un peu davantage. Mais enfin, les deux, cuisine et médecine, ne s'occupent pas des choses que Platon trouve les plus importantes, c'est ça ?
Tout à fait, et puis il faut quand même se rappeler d'une citation de Platon, hein, qui dit « Le corps est le tombeau de l'âme ». Chez Platon, il y a cette finalité qui est finalement d'abandonner, de s'alléger de la charge que représente le corps dans l'ascèse philosophique, dans la contemplation qu'incarne la figure du philosophe. Et dans cet extrait, Platon essaye justement de montrer que cette pratique, qui est une routine sans principe, comparée à la médecine, n'est finalement qu'un savoir-faire.
Donc c'est artisanat contre art, c'est ça qui se joue, même si les deux, je le répète, ne sont pas extraordinairement valorisés, c'est moins compliqué.
Oui, et puis le terme grec est ambigu parce que les Grecs parlent de techné à la fois pour décrire une pratique aujourd'hui qui serait une pratique artisanale et une pratique artistique. Il y a cette ambiguïté de la médecine comme un art. Qui serait codifié, qui aurait connaissance des bienfaits nutritifs et des régimes, là où la cuisine, en fait, ne se soucierait que du plaisir, des sens, le plaisir de la dégustation, mais de fait, mènerait le corps à sa ruine. Alors, pour, on va dire, dans un schéma un peu plus important du Gorgias, cet extrait se situe dans un débat plus grand qui vise en fait à faire une analogie avec la rhétorique et montrer que c'est le sens plus global de ce passage. Mais en effet, il semble montrer que la cuisine semble ne pas être aussi poussée dans l'étude des causes des soins que donne la médecine. Ce qui le mène à finalement reléguer.
Alors c'est pas reléguer. Hein.
Reléguer, eh bien, la cuisine a un rang de routine sans principe, c'est-à-dire de pratique qui à l'époque, il faut le rappeler, est dédiée aux esclaves.
Alors c'est peut-être un autre philosophe qu'il faudrait aller chercher, celui qui a distingué le beau de l'agréable.
C'est Kant,
ouais. 1790, critique de la faculté de juger. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour des sens où il y a de la distance, par exemple pour la vue, de dire il y a des choses qui me sont agréables, et puis il y a des choses qui sont belles, et Kant distingue la sensation du sentiment esthétique. Le sentiment esthétique a une prétention justifiée d'ailleurs, selon Kant, à l'universel. Et c'est de l'esthétique, donc ça engage les sens, mais une sorte de dimension supérieure à la singularité de l'agréable. Le goût est un sens très intime, mais peut-être que la gastronomie, c'est aussi passer de la stricte sensation agréable au sentiment esthétique du bon et du beau. Ce serait la même chose. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste André?
Chez Kant, il y a en effet cette distinction qui est faite très importante dans l'analytique du beau, dans la critique de la faculté de juger, où Kant justement essaie de faire une nuance entre le jugement esthétique et le jugement d'agrément. Le jugement esthétique et le jugement d'agrément sont des jugements subjectifs. Ce qu'il essaie de montrer, c'est que le jugement esthétique, le sentiment de beau, tend vers l'universalité, mais dont on ne peut pas saisir le concept. Et Kant dit, la plupart du temps, on attend du jugement de beau que tout le monde adhère à ce jugement. Et nous faisons comme si c'était possible, c'est-à-dire nous faisons du sentiment de beau et de la règle du beau quelque chose qui soit comme un jugement de connaissance. Nous essayons de faire de la beauté un concept. Or, il est impossible puisque c'est un jugement subjectif. Ce qui fait que nous sommes tentés de faire comme si nous pouvions en déduire un concept de beauté, mais cela est impossible car c'est le produit d'un jugement subjectif. Donc on fait comme si, Kant parle de als ob, il dit nous faisons comme si nous pouvions déduire un concept de la beauté. Or, il est impossible car on parle de beauté que dans la représentation d'une chose. Il n'y a pas de beauté inhérente à la chose, chez Kant.
C'est la musique du Parrain numéro 2, réalisé en 1974 par Francis Ford Coppola, où on revient sur la vie du père Vito Corleone, qui a failli mourir dans Le Parrain 1, numéro 1. Et c'est sa vie à New York dans les années 1920. Et dans cet extrait, avec cette musique, en fait, il n'a pas beaucoup d'argent et il achète une poire. Je vous écoute, Claire Dixo. Cette poire, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?
Je suis quasiment au bord des larmes. J'ai reconnu l'extrait aux premières notes de la musique.
On l'a fait exprès.
Et c'est pas gentil à vous. Vito Corleone, jeune, interprété par Robert De Niro, vient de se faire virer pour qu'on puisse mettre à sa place de commis d'épicerie dans une épicerie italienne le fils d'un baron mafieux. C'est son premier contact avec la mafia. Et il n'est pas content. Un jour, il aura sa revanche. Le patron de l'épicerie, qui se retrouve obligé de le virer, pour se faire pardonner, lui offre une caisse de victuailles que De Niro refuse. Par honneur, par dignité, au lieu de ça, avec ses dernières pièces, il va acheter une poire au marché. Il rentre chez lui, il pose la poire sur l'assiette de sa femme qui a mis la table. Et là, nous passons du génie de Coppola scénariste au génie de Coppola réalisateur, c'est-à-dire qu'au lieu de nous montrer sa femme en train de s'extasier sur une magnifique poire, nous passons hors champ. Nous regardons De Niro en train d'accrocher sa casquette au porte-manteau et il entend ce que nous venons d'entendre, sa femme qui s'exclame oh, « quelle belle poire !»
Et qu'est-ce qui se joue là-dedans, d'après vous ?
C'est un homme de famille.
Ah,
la mafia, c'est la famille, la familia.
Et la poire ?
Et la poire, c'est la seule chose qu'il puisse offrir à sa femme aujourd'hui. Un jour, il aura de l'argent. Un jour, il l'invitera dans les plus beaux restaurants. Un jour, ils auront des enfants et il pourra les nourrir comme il le veut. Mais en attendant, il lui offre cette poire qui est un soleil dans leur petit appartement assez miteux de Brooklyn. C'est un geste. Il aurait pu se payer un paquet de clopes, il aurait pu aller jouer aux courses. Il achète une poire pour sa femme.
Et c'est la promesse qu'on mangera toujours bien chez les Corleone, quoi qu'il arrive, c'est ça ?
La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la cuisine va devenir symbolique, dans les deux films, les trois films du Parrain, la cuisine devient symbolique de certains aspects de la vie familiale, de la même façon que la tomate représentera toujours le sang, et donc les liens du sang, les liens familiaux qui sont forts et indissolubles, les oranges représenteront toujours la mort.
Oui, j'ai lu ça dans vos travaux, je n'ai pas bien compris. Donc quand Vito Corleone est sur le point de mourir dans les épisodes précédents où il y a d'autres morts, on monte beaucoup d'oranges. Et vous êtes sûr de vous, là ?
Ah ben, archiforme.
C'est la mort.
Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas vu qu'une seule fois, le film.
Oui, oui, oui.
Je vais prendre justement cet exemple. Dans le premier Parrain, où donc Vito Corleone est interprété par Marlon Brando fait arrêter sa voiture parce qu'il veut acheter des oranges. Il n'en a plus. Et les oranges, on est chez des Italo-Américains, l'orange, c'est le soleil de l'hiver. L'orange est un fruit d'hiver, je le rappelle, très difficile à trouver en été. Et il s'arrête pour acheter quelques oranges. Il les choisit une à une, ça va assez vite, mais on le voit très bien. Il désigne à l'épicier les quelques oranges, et à ce moment-là, arrivent les méchants qui lui tirent dessus. Il est criblé de balles, et on le laisse ensanglanté, proche de la mort. Il va mettre quasiment tout le film à retrouver la santé. Et pendant ce temps-là, ça va être l'occasion pour Michael, son plus jeune fils, interprété par Al Pacino, ça va être l'occasion pour Michael de prendre les rênes de la famille. En faisant quoi ? En apprenant à faire des pâtes.
Délicatesse gustative, on mangera toujours bien dans les familles de mafieux d'origine italienne. Il y a cette espèce de promesse là qui se décline dans votre commentaire, l'accentue, Claire Dixo. Alors dans Les Affranchis de Martin Scorsese, l'itinéraire de Henry Hill semble malheureusement à un moment donné suggérer que en Amérique, la subtilité des goûts italiens va décliner. Écoutez.
Monsieur Hill, connaissez-vous également un dénommé Paul Cicero ?
Oui.
Le voyez-vous dans ce tribunal ?
Oui.
Pouvez-vous le désigner au juré ? Monsieur le Président, j'ai un document ici que j'aimerais porter à votre...
Le plus dur pour moi, ça a été de plus vivre la grande vie. J'adore encore la vie qu'on avait. On nous traitait comme des stars de cinéma, mais des durs. On avait tout, il suffisait de demander. Nos femmes, nos mères, nos enfants, tout le monde était de la fête. J'avais des sacs en papier remplis de bijoux dans le buffet de la cuisine, un sucrier plein de coke à côté du lit.
Ces gens les appellent des balances parce qu'une balance fait n'importe quoi pour survivre, n'est-ce pas, monsieur Hill ?
Objection !
Objection retenue.
Écoutez, je sais pas ce que c'est, moi, être une balance.
Monsieur Hill, vous ne savez que ça !
Objection, monsieur le président. Considérant la gravité.
Tout ce que je voulais, j'avais qu'à décrocher le téléphone et je l'avais. Des voitures gratuites, les clés d'une douzaine de planques un peu partout en ville. Je jouais 20-30 000 $ en un week-end. Après, je claquais tous les gains dans la semaine. Ou alors j'empruntais aux requins pour rembourser les boucs.
Et tout ça, maintenant, c'est fini.
C'est maintenant le plus dur. Aujourd'hui, tout a changé. Y a rien qui bouge. J'attends que ça se passe comme tout le monde. Même pas moyen de manger correctement. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccines et sauce marinara, j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc.
Votre commentaire, Claire Dixo.
Ce sont les dernières minutes du film et comme vous le disiez, Géraldine, on a dans ce film le parcours de la nourriture italo-américaine. Martin Scorsese, contrairement à Coppola, ne connaît pas très bien l'Italie. Lui, son domaine, c'est la nourriture italo-américaine, la nourriture des immigrants. Le premier film de Scorsese n'est pas un film de fiction, c'est un documentaire sur ses parents. Le documentaire s'appelle Italian American, en un seul mot. Mmh. Et au générique de fin, on expédie extrêmement rapidement tous les braves gens qui ont travaillé sur ce film pour pas un rond, parce qu'il était quand même assez raisonnablement fauché. À la suite de quoi, qu'est-ce que nous avons ? Pour 6 personnes, prenez 150 grammes de chair à saucisse. Il nous donne la recette des spaghettis aux boulettes de viande de sa mère et ça occupe 2 minutes 30 de générique. Le film Les Affranchis, c'est aussi le parcours de la nourriture italo-américaine dans l'histoire, dans le roman national des États-Unis. On commence avec la jeunesse de Henry Hill dans une cuisine italo-américaine assez classique, italienne mais avec des ingrédients américains, ce sont les immigrants italiens qui ont apporté les premières aubergines, les premières salades, il faut le rappeler, aux États-Unis. Et puis petit à petit, comme le dit l'extrait, ils mangent comme des pachas, ils se font livrer des caisses de langoustes en prison. On est là dans un imaginaire assez loin. Et quand à l'issue de son procès, Henry Hill rejoint le programme de protection des témoins du FBI, il ne peut plus être le roi des mafieux et il passera le reste de sa vie à commander des fettuccine marinara et à se voir livrer des pâtes au ketchup. I'll live the rest of my life.
C'est l'enfer, like c'est l'enfer de Dante pour lui.
C'est la normalité et cette normalité, elle est insupportable et ce sont les dernières lignes du film.
Oui, vous voulez réagir, Kylian Stangel.
Je me demande si c'est réellement les recettes qui sont mises en jeu ou si c'est pas plutôt les individus. Il y a plus finalement une valorisation de l'estime de soi, de le positionnement social de ces différents individus, avec la présence de l'acteur, avec la présence aussi de la mafia en tant que telle, l'existence de la mafia sur le territoire, et puis le devenir de ces individus et aussi des recettes en tant qu'élément patrimonial de cette mafia. Je me demande si le focus n'est pas plus mis sur la qualité du mangeur plutôt que sur l'intérêt de la recette.
Complètement. Dans l'ensemble de ces films italo-américains, qu'on soit chez Scorsese, Coppola ou leurs descendants, la nourriture sert à caractériser le personnage et à caractériser les liens entre les personnages. On voit très bien, par exemple, dans les affranchis, quand nos trois lascars débarquent chez la maman de l'un d'entre eux, qui est jouée par la maman de Martin Scorsese, il débarque à 1h du matin avec un macabé dans le coffre. On voit le personnage de Robert De Niro qui empoigne la bouteille de ketchup et qui arrose ses pâtes que vient de lui préparer Madame Scorsese. Il les arrose de ketchup. Ça nous dit une chose, c'est un Américain. La Sicile, là, elle est très très loin et s'il faisait ça en Sicile, on le raccompagnerait à cheval sur un rail. La nourriture permet à chaque fois de caractériser le personnage, qui il est par rapport aux autres et où il en est dans son parcours.
Je finis cette émission avec la question du début. Y a-t-il des limites à l'inventivité en cuisine? Alors, vous nous avez alerté, Jean-Baptiste André, sur un point que vous vouliez, je crois, évoquer, qui était l'exposition Cookbook, qui a eu lieu en 2013 au Palais des Beaux-Arts de Paris, puis en 2019 à la Panacée, à Montpellier. Et c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires, on trafique les goûts, puisque, par exemple, une présentation, je crois que ça s'appelait « Painting the Roof of Your Mouth », présente des glaces, alors c'est toute une architecture, hein, mais les glaces ont un goût de rivière, de bois brûlé, de fumée et de poussière. C'est bon ?
Alors, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai tout de suite vu ça comme une expérience synesthésique, au sens où un goût pouvait être une vision. C'est novateur dans ce genre d'exposition présentée par Nicolas Bourriaud et Andrea Petrini de vouloir montrer la porosité qu'il y a entre les champs de l'art et de la cuisine, et notamment montrer que les performeurs et les artistes aujourd'hui sont dans cette quête de créativité comme les chefs le sont aujourd'hui. Et on le voit avec le potentiel instagrammable de la plupart des réalisations qui sont faites dans les médias. On le voit sur le point qu'est celui des performeurs et des artistes qui sont de plus en plus connectés aux nouvelles technologies. Et on a l'impression que la créativité, en ce sens, n'a plus de limites. Au sens où on voit que dans les restaurants aujourd'hui, dans l'expérience culinaire qu'on peut retrouver au restaurant, on va avoir une vraie réflexion sur la scénographie, sur la construction du repas comme une expérience qui ne dure pas qu'une heure dans les grands restaurants, mais qui dure plusieurs heures, avec un balai incessant, des odeurs, si on pense au restaurant ultraviolet de Paul Perret, si on pense à...
C'est plus intéressant que d'aller trop changer les goûts. Passons au visuel, à la mise en scène. Parce que c'est un peu dangereux, quoi. Moi, je goûterais bien, honnêtement, un peu de glace à la poussière, mais je suis pas sûre d'y revenir après.
Ça avait été fait avec un artiste plasticien et un chef étoilé, Daniel Burns. Donc, ça a été fait en collaboration avec un artiste et un cuisinier. Donc, aucun problème sur la comestibilité, hein, de la glace, bien sûr. Mais c'est tout aussi audacieux, finalement, que de proposer. Des goûts qui peuvent être dégoûtants, entre guillemets, des goûts qui peuvent...
Alors, le dernier mot sera à Kylian Sangel.
Est-ce que la problématique n'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, dans la reconnaissance finalement artistique de la cuisine, qui de temps en temps a été considérée parmi les beaux-arts, dans certaines périodes de l'histoire. Depuis peu, Guy Savoy vient de rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, et du fait commence à donner un pied dans cet espace de reconnaissance de la de l'art culinaire comme étant un art. Même si on reprend les préceptes du Bénézite dans le domaine de l'art pictural, où pour être connu comme artiste, il faut nécessairement avoir des disciples. Si on s'appuie ne serait-ce que sur cette ligne-là, le monde de la cuisine, ça fait longtemps qu'elle pourrait être connue comme un art, quelle que soit la démonstration qu'elle essaye d'en faire.
Quand Ève naquit, Adam fut conquis. Toute nu, quand elle est venue, il lui prit la main. Et sur le chemin, Ève enamourée lui a murmuré: aimez-vous les femmes, les femmes en automne, les femmes au printemps, les femmes au beau jour, les femmes à l'amour. Juliette là-haut, avec Roméo, faisait un duo, duo du château, l'air impatienté, elle en eut assez, et un soir d'été, elle lui a balancé: aimez-vous les femmes, les femmes en automne, les femmes au printemps, les femmes au beau jour, les femmes à l'amour. Dans sa voiture sport, une blonde en or demande du feu à un vieux monsieur, mais lui, très anglais, fut interloqué quand la fille en or a dit: mon trésor, chez moi j'ai des pommes.
Aimez-vous les pommes de Régine, sortie en 1965. Merci beaucoup Claire Dixot, Jean-Baptiste André et Kylian Stangel pour toutes vos analyses ce matin sur les nourritures et l'imaginaire. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je ne peux pas terminer une émission sur les délices de manger sans faire un clin d'œil à Caroline Brouet et à l'émission Les Bonnes Choses. Le dimanche à midi, sur France Culture, ce dimanche, elle vous parlera des 100 ans de l'AOP Roquefort. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Il s'intéresse cette semaine au titre et à la gloire. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les œuvres ont-elles des
titre. Ce qu'on appelle un titre, c'est la formule, en quelque sorte, qui distingue quelque chose ou quelqu'un dans un espace social, dans un usage social, dans un espace social de référence. Par exemple, on attribue un titre à un être humain, un titre de noblesse, un titre social, quel qu'il soit, un titre de champion, une reconnaissance, et ça le distingue socialement avec un écart possible entre la fonction purement sociale et le mérite individuel. Mais alors, il y a une énigme qui frappe beaucoup de lecteurs de livres, d'admirateurs d'œuvres musicales ou de peintures, c'est que même dans l'espace social de l'art, il y a une fonction qui est très importante et qui est dévolue au titre et dont on croit pouvoir aussi se passer, mais cela semble bien compliqué. Pourquoi les œuvres ont-elles des titres? Et ces titres nous disent-ils quelque chose du contenu de l'œuvre, comme le titre de champion du monde de natation nous dit quelque chose de la capacité à nager quand même de la personne qui l'a obtenu, ou bien le titre est-il totalement extérieur à l'œuvre et quelque chose de en dehors de l'œuvre, quelque chose qui n'a aucun rapport avec elle. On pourrait croire que cela dépend des domaines. Par exemple, le titre d'une œuvre de philosophie, la critique de la raison pure, semble bien avoir quelque chose à faire avec son contenu. Elle nous dit quelque chose d'un projet. Elle nous dit quelque chose aussi d'un genre littéraire. La critique de la raison pure, ça n'est manifestement pas une bande dessinée ou un roman policier. Quoique, encore, cela puisse bouger. Ça l'inscrit dans un genre, ça l'inscrit dans un projet. Ça indique quelque chose du contenu, de la technicité peut-être aussi. Quoique ce soit trompeur de l'œuvre, et ce titre peut faire peur. Mais comme disait Rousseau de la République de Platon, il ne faut jamais juger des livres seulement par leur titre, puisque la République, disait-il, est avant tout un traité d'éducation. Il le disait dans l'Émile ou de l'éducation, qui inversement est un grand livre politique. Donc il y a un jeu aussi avec les titres. En philosophie, bien sûr, chaque philosophe est déjà en train de dire quelque chose de son œuvre quand il l'intitule. Mais il y a des problèmes encore plus paradoxaux. Par exemple, le titre d'une œuvre musicale semble totalement hétérogène avec l'œuvre musicale elle-même, puisque le titre est du langage et la musique n'en est pas. Et la symphonie pastorale a-t-elle quelque chose à nous dire de l'œuvre, en plus du fait de la désigner comme symphonie? L'aspect pastoral dit-il quelque chose vraiment du contenu de la symphonie de Beethoven? Bernard Sèvres, grand philosophe de la musique, en parle du titre en termes de paratexte. Elle est à côté du texte, à côté de l'œuvre, mais en dit quelque chose quand même, avec une intention là aussi de l'auteur qui est de la situer dans l'espace imaginaire de l'art, dans la bibliothèque, dans la discothèque, dans le musée, dans le catalogue. Le catalogue n'étant pas seulement une sorte de liste distinctive, purement formelle ou structurale, avec des différences de signes, mais aussi un catalogue avec de l'imaginaire. La symphonie pastorale, que ce soit vrai ou faux, que nous ayons ou non l'image de la nature quand nous écoutons cette œuvre de Beethoven, peut-être nous fait-elle écouter cette œuvre d'une manière un peu singulière. Mais il faut surtout se demander pourquoi les œuvres ont besoin de titre. En réalité, peut-être que ce qui fait œuvre est d'abord et avant tout l'unité d'un travail humain auquel son auteur, son créateur, veut donner un sens d'ensemble. Alors il y a inséparablement à la question même de l'œuvre, la question du titre. De telle sorte aussi que des fragments qui nous sont parvenus de manière décousue, eh bien, il faut en faire une œuvre, il faut leur donner un titre. Nous appelons ça des lettres, par exemple, quand il s'agit de lettres, des pensées, comme pour Pascal. Ce n'est pas le titre qu'il voulait leur donner. Quel est ce titre? Certains ont voulu le reconstituer, mais en tout cas, sous le titre des pensées de Pascal, nous savons qu'il y a l'œuvre d'un génie humain.
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Dalia. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaï Magiboire, Anna Felpin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!